y a vraiment une pénalité à être mère à l'antenne. Parce que tu disparais. 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 Disparais.
Championne du monde
40-0.
Salut, c'est Cléo et bienvenue sur Championne du Monde, le podcast des femmes qui construisent le sport de demain. Alors, pas besoin d'être championne du monde pour passer ici. Toutes les deux semaines, on vous fait découvrir la voix de femmes qui incarnent le sport et font bouger les lignes. Athlètes, journalistes, médecins ou même ta mère, fan de Kevin Mayer, on part à la rencontre de nanas qui déchirent et surtout toujours plus badass que la plus badass de tes copines. Bonne écoute! Elle m'avait fait l'honneur d'être la toute première invitée de championne du monde il y a 5 ans. Et aujourd'hui, j'ai l'immense joie d'accueillir à nouveau la journaliste Clémentine Sarlat. Quand on s'était rencontrés la première fois, Clémentine venait tout juste de démissionner de son poste chez France Télévisions, où elle officiait comme journaliste sportive depuis plusieurs années. Elle n'avait à l'époque qu'un seul enfant et n'avait pas encore lancé son podcast à succès, La Matrescence. Elle n'avait pas non plus évoqué les discriminations qu'elle avait subies dans le cadre de sa profession, ni parlé dans le documentaire de Marie Portolano qui sortira 2 ans plus tard. Mais déjà à l'époque, on avait évoqué la difficulté d'être une femme dans le monde du journalisme sportif. 5 ans plus tard, il semblait évident de revenir sur ces quelques années qui ont vu le monde du journalisme bousculé par la prise de parole de femmes qui ne souhaitaient plus garder le silence sur les violences qu'elles subissaient au sein des rédactions sportives. Alors après MeToo, après Je ne suis pas une salope, je suis une journaliste, est-ce que le monde du journalisme sportif a vraiment changé? Est-ce que les comportements problématiques ont cessé? Quel est l'avenir du journalisme sportif? Est-ce que la télévision est-elle d'ailleurs en train de mourir? Autant de questions que l'on aborde avec Clémentine Sarlat dans cet épisode sans langue de bois pour analyser la situation actuelle. Et disons les choses, il y a encore du boulot. Salut Clémentine.
Salut, ça va?
Ça va et toi?
Oui.
5 ans après.
Bah ouais.
Waouh, c'est un truc de dingue. On se le disait un petit peu en off juste avant, mais ça me fait une petite émotion de t'avoir de nouveau sur le podcast. Au bout de 5 ans, t'as été la toute première interviewée, la toute première invitée.
Maintenant, c'est trop chouette. On était juste en train de discuter. Je me dis, c'était dans un hôtel, non? Quand on l'a fait il y a 5 ans.
Ça, je pense que les gens ne sont pas trop au courant des backstage, des coulisses de cet épisode-là. Mais ouais, c'était il y a 5 ans, plus de 5 ans même. C'était en décembre 2018, je crois. Donc, ça date. Et c'est rigolo parce que je te disais que j'avais réécouté l'épisode. Et dans l'épisode, à un moment donné, tu me dis, peut-être que dans 2 ans, tu reviendras me voir. Et peut-être que ça aura changé. Peut-être que je serai au fond du seau, tu m'as dit. Parce
c'est
que tu te littéralement les mots que tu me disais, donc ça ne fait pas 2 ans, ça fait 5 ans, ça fait un peu plus. Et donc du coup, ma première question, Clémentine, mais comment est-ce que tu vas?
Très bien. Et c'est vrai que quand tu m'as interviewée, je venais de démissionner de France Télévisions.
Exactement, ouais.
En septembre, enfin fin août, donc j'avais arrêté mon contrat en CDI là-bas. Mmh. Et j'avais pas une très grande idée de ce que j'allais faire très concrètement pour la suite. Je savais que je voulais lancer un podcast, enfin, je savais que j'allais aller dans cette direction-là, mais pas dans les termes dans lesquels je le fais aujourd'hui, 5 ans après.
Ouais.
Je savais que je voulais continuer quand même de faire du journalisme dans le sport, mais pas dans les conditions dans lesquelles je le faisais avant. J'avais un seul enfant à l'époque, qui était petite, ma grande, alors qu'aujourd'hui elle a bientôt 7 ans. Et j'en ai 2 de plus maintenant. Donc vraiment, ma vie a beaucoup changé depuis. Donc je vais très bien. Surtout, je pense que je suis la plus heureuse et fière d'avoir fait ce choix. Jamais de la vie, je l'ai regretté. Ça ne veut pas dire que ça n'a pas été dur. Ça a été vraiment difficile par moments. Ça peut encore l'être pour certaines raisons. Mais 5 ans après, je me remercie d'avoir eu le courage de partir et de changer de voie.
De faire le grand saut. Mm. C'est vrai qu'il y a 5 ans, tu venais de le dire, mais en fait, en réécoutant le podcast, c'est rigolo parce qu'il y avait plein de secrets encore qui entouraient la suite de ton avenir professionnel et tu parlais pas encore de podcast. Et, donc, c'est rigolo. Tu me disais, suivez dans quelques temps. Et c'est vrai que là, du coup, La Matrescence, maintenant, qui a un carton,
on peut le dire quand même.
Ouais, non, ça marche très, très, très bien. Ouais.
Et un très beau projet sur la parentalité, effectivement. Mais tu as continué aussi un petit peu à pratiquer, mais différemment, ton métier de journaliste sportive. On t'a vu sur 100% rugby, sur M6, pendant la Coupe du Monde. On te voit aussi avec Prime Vidéo sur Roland-Garros depuis quelques années maintenant.
Ouais, j'ai continué, t'as raison. J'ai été aussi pigiste pour beIN Sport pendant les week-ends de Coupe d'Europe. Après, c'est devenu compliqué. Avec 3 enfants en bas âge, la pandémie et tout, de faire tous les week-ends, je peux plus avec mon rythme de vie, c'est pas possible avec 3 enfants. Enfin, j'ai pas envie surtout. Je pense qu'on peut toujours le faire vu que les hommes le font. c'est toujours la même réalité, c'est possible, j'ai juste pas envie. Mais je suis très heureuse de pouvoir continuer à le faire de manière hyper ponctuelle sur des gros événements. C'est ce qui me plaît en fait et c'est ce que je voulais faire quand je suis partie de France Télévisions, j'avais envie de continuer. Mais j'avais plus envie d'être dans le quotidien d'une rédac qui peut être un peu pesant, qui peut être plus alignée avec ce que je voulais faire et mes valeurs.
T'es heureuse de la structuration maintenant que ça a pris, en quelque sorte, dans ta vie, c'est cependant podcast et la partie journalisme sportif.
Ouais, je peux le dire quand même un petit peu, j'ai eu de la chance dans l'organisation, c'est que quand je suis tombée enceinte de ma deuxième fille, ça a été la pandémie.
Ouais.
Et donc, tout s'est arrêté et je n'ai pas souffert du fait d'avoir un bébé, de pouvoir d'être bloquée, de rien pouvoir faire. Par contre, c'est arrivé un moment où je me suis dit tous mes sources de revenus venaient des événements sportifs ou des événements que je faisais dans les entreprises ou peu importe, mais qui avaient un rapport avec le sport. Et c'est à ce moment-là que mon podcast qui s'appelle La Matrescence, mais qui parle de parentalité, a explosé parce qu'évidemment, quand les gens se sont retrouvés enfermés chez eux avec leurs enfants, ils se sont posés plein de questions. Et j'ai eu beaucoup de chance sur ça, c'est que le gap s'est fait à ce moment-là et mon podcast a pris plus que 50% de mes revenus et le journalisme un peu moins, dans une période où ça aurait été très très complexe pour moi si j'avais eu que le journalisme. Donc d'avoir eu plusieurs projets m'a beaucoup aidée. Et aujourd'hui, j'adore ces deux parties de moi un peu, c'est pas schizophrénique, mais qui ont parfois rien à voir et parfois si quand même.
Elles cohabitent,
mais ouais, voilà, on va dans un milieu extrêmement masculin dans le journalisme sportif où voilà, je côtoie quasiment que des hommes, à un milieu où je côtoie quasiment que des femmes quand je parle de parentalité. Et encore, mon podcast, il y a 30% d'hommes qui écoutent, ce qui est énorme quand on parle de parentalité. Mm-hmm. Et ils m'écoutent parce qu'ils m'ont vu à la télé parler de sport. Et ils sont là, bon, ok, elle, je veux bien l'écouter, elle, je veux bien qu'elle me parle de sujets qui touchent à mes enfants parce que. Elle est estampillée dans ma tête, tu vois, c'est vraiment...
C'est vrai ?
Oui, c'est vraiment ça.
On t'envoie vraiment des messages pour te dire...
Bien sûr, des papas qui me croisent dans la rue, qui viennent me dire « Je vous ai connu sur le terrain en rugby ou à la télé, mais du coup, j'écoute vos podcasts que ma femme m'a recommandé. » Et ils sont capables d'écouter mon discours parce que je fais partie de leur monde, de ce monde très masculin, selon eux, du sport.
Et tu le disais, t'es dans un monde masculin. C'était d'ailleurs le sujet du podcast il y a 5 ans, où t'expliquais aussi pourquoi t'avais décidé de partir et que c'était compliqué de se faire sa place à l'époque. Encore aujourd'hui, peut-être, on en reparlera, mais de ces évolutions, de ces non-évolutions d'ailleurs, mais de ce monde masculin. Toi, c'est pas trop compliqué aussi de faire le ping-pong entre ces deux milieux qui sont quand même extrêmement différents. C'est quand même un grand écart énorme.
Non, parce que déjà, la différence, c'est que... Enfin, le point commun, c'est que c'est du journalisme. Ça m'a vraiment aidé d'avoir un master de journalisme et juste d'être journaliste. De créer ce podcast, c'est les mêmes mécaniques, on va dire. Le sujet change, le fond change, mais pas la forme. Donc ça m'a été hyper précieux. Et puis j'ai quand même travaillé dans des environnements très, très intenses, avec beaucoup de pression. Donc forcément, quand je me retrouve à faire moi mon chemin toute seule, j'ai des réflexes du professionnalisme qui sont ancrés, donc ça m'a vraiment aidée. J'ai aussi beaucoup de contacts, j'ai quand même un tout petit peu de notoriété qui m'a aidée à développer mon podcast sur la parentalité, même si, comme tu dis, c'est quand même deux mondes différents, donc plein de gens ne savent pas du tout que j'ai deux vies parallèles. Après, c'est pas si difficile parce que j'ai interviewé des très grands noms du sport. Mais je suis repartie à zéro quand je suis allée interviewer des très grandes personnalités de l'éducation, parce que parfois, c'est des gens qui sont un peu inatteignables ou qui ne sont pas habitués aussi aux médias, donc il faut aller chercher différemment. Mais c'est ça que j'ai aimé, c'est qu'au final, c'est le même métier, c'est juste que ce n'est pas le même environnement. Et j'adore.
Tu avais lancé un podcast aussi il y a 5 ans sur le sport, Spotlight, je crois, c'est ça ?
Le Spotlight, ouais.
Et que tu n'as pas continué. Pour quelle raison ?
Ben, à cause de la pandémie, parce que je l'ai fait pendant un an et demi jusqu'à ce que la pandémie arrive. Et moi, mon but, c'était d'aller chez les sportifs et les sportives dans leur environnement perso, chez eux pour qu'ils se sentent vraiment à l'aise, parce qu'on n'est pas le même quand on va chez les gens que quand ils viennent dans un grand média, et qu'il y a toute une atmosphère autour. Chez eux, ils sont vachement détentes, et mon but c'était ça, et je trouve que les interviews sont hyper agréables parce que on les sent, et tu l'as déjà fait,
ouais,
on les sent dans un autre cadre, ils baissent les armes quelque part. Et mon but c'était vraiment le spotlight, c'est pour ça ce nom, c'était de montrer ce qu'il y avait derrière la mise en lumière quand on les voit voilà, briller 2 semaines au jeu ou sur une compétition. C'est quoi tout le travail qu'il y a à faire derrière, et j'étais déjà vachement orientée sur le travail mental,
ouais,
sur les émotions, sur la psychologie qui était très peu abordée en France à ce moment-là. Heureusement, déjà il y a 5 ans on parlait déjà de Teddy Riner et de sa psy, et aujourd'hui
ouais,
ça commence à faire le chemin. D'ailleurs en équipe de France de rugby c'est acté, c'est normal, mais avant c'était un gros mot, la santé mentale, mmh, et la psychologie. Et au final dans mon podcast, tu vois, j'ai interviewé énormément de psychologues, psychiatres, et j'ai appris beaucoup de choses sur l'aspect mental qui sert pour les enfants, mais qui sert pour après, qui sert pour les adultes et sportifs de haut niveau. Et ça, ça a été très précieux, et mine, ça m'a aidé aussi à mieux faire mon métier de journaliste sportive après.
Mmh.
Je m'en suis servie.
Et t'as pas voulu continuer justement à donner, à montrer ce que tu souhaitais montrer du sport aussi, mmh, cet aspect-là, c'est pas quelque chose que t'as souhaité à un moment donné, après la pandémie, remettre, réactiver?
Si, j'avais envie, mais alors le truc, c'est comme je t'ai dit, c'est qu'au moment où il y a la pandémie, donc bah, mon concept d'aller chez les
oui,
sportifs,
voilà, c'était ça pas possible. Pas.
et c'est que mon autre podcast, j'avais lancé aussi en parallèle le podcast de la matrescence, a fait un énorme boom et j'ai commencé à être rémunérée. Donc là,
ouais,
le choix était vite fait. Il y a un moment, j'ai 2 enfants, je viens de reprendre le travail, je vais me concentrer sur ce qui me ramène de l'argent.
Mm.
T'es bien placé pour savoir que c'est
bien
compliqué.
Bien sûr, bah ouais, c'est clair.
Mais j'avais en tête de me dire, est-ce qu'en 2024, avant les Jeux à Paris, je ne referais pas tout ça? Le problème, c'est que ça demande du temps, que pour l'instant, je n'ai pas. On est quand même 5 ans après et j'essaye de développer à fond le potentiel de mon entreprise. Parce qu'aujourd'hui, je suis chef d'entreprise, j'ai créé une entreprise, donc c'est encore un autre métier. Et pourquoi pas un jour le refaire, ouais. C'est vrai que ça me dit toujours.
Et justement, 5 ans après aussi, quel est ton rapport maintenant au sport et à l'industrie du journalisme sportif, globalement?
Il y a beaucoup de choses qui ont changé, parce que entre le temps où je t'ai parlé et aujourd'hui, il y a eu des articles dans la presse qui sont sortis.
Exactement, on y reviendra.
Il y a eu un documentaire, il y a eu un livre que Marie vient de sortir, Marie Portolano, donc on en reparlera si tu veux après. Donc quand même, le paysage audiovisuel autour du sport, il a changé. En tout cas, dans mon métier, dans ma partie de métier. Je suis revenue travailler dans ce métier, donc dans ce milieu. Donc j'ai vu les changements. Tu vois, j'ai travaillé avec des gens formidables sur Prime Video. J'ai travaillé avec des gens exceptionnels sur M6. Et la différence peut-être aussi en 5 ans, c'est que j'ai grandi. J'ai pris forcément de l'expérience et de la maturité. Je sais mieux m'affirmer. Il y a des choses que j'accepte plus. Et de toute façon, je pense que je suis estampillée, c'est écrit sur ma tête. Elle, on ne peut pas. Voilà. C'est pas grave, ça me va très bien, ça me protège quelque part. Et d'avoir 3 enfants aussi, je pense que ça te donne une stature. Il y a un moment, je sais les choses importantes de la vie. Et je pense que ça, le fait que j'ai plein d'autres choses à côté, fait que j'ai moins la pression au moment où j'y suis sur des gros événements, sur les plateaux. J'ai pas la pression ni le stress comme je pouvais avoir avant. Ma vie, elle en dépend pas, en fait. C'est un bonus énorme pour moi, donc je m'éclate. Cet été, à l'automne dernier, la Coupe du Monde de rugby, c'était incroyable. Et vraiment, j'ai eu une équipe chez M6 exceptionnelle. Ça a été une révélation pour moi de travailler avec des gens comme ça, simplement parce que j'ai eu les rênes de mon émission.
Mmh.
Et tout ce que j'ai proposé a été accepté, ce qui n'était pas le cas quand j'étais plus jeune,
ouais,
pour plein de raisons différentes. Mais en tout cas, là, oui. À 35 ans, j'avais une voix, j'avais un droit de regard sur l'émission que je présentais. C'est-à-dire que je n'étais pas juste la tête d'affiche. J'ai créé plein de choses dans cette émission. Et notamment, une partie, tu vois, c'était le cap ou pas cap. Et
ouais,
c'est un des trucs que les gens ont le plus retenu en regardant, parce qu'on a vulgarisé un peu les règles du rugby en faisant ça en mode fun. Moi, j'ai participé, j'ai été levée en touche en talon de 10 cm par Fulgence Ouedraogo. Franchement, c'est un grand moment. Et je vous garantis, on s'est entraîné à le faire avant. Et heureusement, parce que j'ai hurlé quand il m'a soulevée. Le mec, en même temps, il est habitué à soulever des colosses de 130 kg. Enfin, j'exagère un peu, mais du coup, j'étais assez légère pour lui. Il m'a fait une fusée. Et c'était génial. Franchement, j'ai trop apprécié. Et ça devrait être tout le temps comme ça, le journalisme sportif.
Tu disais, ça a changé pour différentes raisons. Mm. T'en as cité quelques-unes, mais mis à part ton changement de statut, c'est ça pour toi qui est vraiment le plus important, qui fait une différence?
Pas que, c'est que on arrive beaucoup en tant que jeune femme, parce qu'il faut le dire, j'étais très jeune, j'avais 25 ans quand j'ai commencé la télé à l'antenne, parce que c'est encore autre chose de commencer la télé, mais à l'antenne. J'ai pas la même maturité, la même posture, la même stature, j'ai pas la capacité de dire moi je sais ce que je veux, ça va être ça. C'est difficile de s'imposer, et en tant que femme encore plus, il y a plein de choses, tu vois, rien que sur les tenues, et Marie Portolano le raconte très bien dans son livre, c'est très difficile de dire non, en fait c'est mort, ça n'est pas moi, moi je suis... Franchement, je vais décrire souvent, je suis une pouilleuse, je vais pas te mentir. Dans la vie de tous les jours, je m'habille pas du tout en mode bimbo comme on peut être à la télé, parce qu'on correspond à certains standards de ce que veulent les gens à la télé. Et j'avais du mal à dire non à ça. Aujourd'hui, j'ai aucun souci. Chez M6, ils ont très bien compris mon style, c'était moi qui décidais, on n'allait pas m'imposer quelque chose. Il y a ça, il y a ta posture. Donc quand toi, et ça, j'ai beaucoup, beaucoup interviewé de psychologues, de psychiatre, et sur les émotions, sur plein de choses, sur les enfants, mais en fait, qui te parle à toi, adulte. Et ma posture, où j'osais pas m'affirmer, où j'osais pas dire les choses, parce qu'on a ce syndrome de la petite fille bien élevée qui
veut pas déranger.
Qui veut pas déranger, ou qui va dans le sens et qui essaye de s'intégrer aussi. Il faut pas se mentir, c'est très dur d'être une minorité dans un groupe de dominants, donc qui sont les hommes et blancs, a fortiori. Bon, je suis une femme blanche, donc je suis privilégiée dans un certain sens, surtout dans le milieu du journalisme sportif. Faut pas le nier, je suis un stéréotype de femme. Hein. Je suis blanche, blonde, les yeux clairs.
Ouais.
Je sais très bien, et j'espère que ça changera. Et c'est en train de changer quand même. Et donc, c'est juste qu'aujourd'hui, il y a des choses que je pourrais jamais tolérer. J'ai aucun souci à dire c'est pas ok. Et oui, la posture, c'est très important. Et j'ai une autre façon d'interagir avec mes supérieurs ou avec les gens avec qui je travaille. Je suis moins dans le... Bah, je peux rien dire parce que j'ai une voix, j'ai le droit de l'utiliser. Et comme je te dis, ma vie professionnelle ne dépend pas de ce moment, de ces 15 jours que je vais faire de compétition, ces 3 mois. Vraiment, pas du tout. J'ai une entreprise, je suis chef d'entreprise à côté, donc forcément, j'ai une pression en moins. C'est que du plus pour moi. Donc ça change beaucoup. Quand on a besoin de manger et qu'on a besoin de payer ses factures à la fin du mois, effectivement, et vu que c'est très dur, et vu que le métier de journaliste peut être très précaire, c'est compliqué de l'ouvrir. Moi, je suis pas dans cette posture-là.
Tu t'es attribué aussi ta liberté ?
Ouais, je me suis repris ma liberté. C'est pour ça que je regrette pas du tout, je te le dis 5 ans après. C'était un pari un peu fou, hein, je le sais très bien, de quitter un CDI à France Télévisions où tu peux le garder pendant 60 ans.
Comme beaucoup font d'ailleurs.
Comme beaucoup le font. Mais je me voyais dépérir, je me voyais devenir aigrie, je me voyais tourner mal en fait. Et plus avoir cette créativité que j'ai en moi... Et c'est des aspirations que j'ai vraiment, je suis quelqu'un de très positif à la base. Et là, j'étais vraiment en train de sombrer pour aussi d'autres raisons. Je venais d'avoir un bébé, ça se passait pas bien du tout à mon retour de congé mat. Mais même de manière générale, l'ambiance a été un peu lourde. Et d'avoir repris cette liberté, de dire bon, je sais pas ce que je vais faire, je sais pas comment je vais m'en sortir, mais vas-y, j'ai 30 ans. Je veux pas pourrir encore 10 ans ici et me retourner et me dire mince, j'aurais dû partir avant en fait.
Ouais.
Je suis peut-être partie, j'en sais rien si je suis partie au moment, je pense que oui, vu ce que j'ai fait derrière. Tu vois, il y a 5 ans, on parlait pas beaucoup de podcast.
Ah non, ça commençait un tout petit peu, mais c'était pas...
J'avais pitié un podcast à France Télévisions quand je suis partie, on m'avait ri au nez quand même.
C'est vrai.
Alors qu'aujourd'hui...
ils en ont plein maintenant.
En tout cas, dans le monde anglo-saxon, avoir un podcast ou interviewer des grands noms, c'est obligé, c'est un passage obligé aujourd'hui.
Ouais.
Donc c'est vrai que des fois on est un peu trop en avance, mais c'est pas grave, ça m'a motivée pour faire moi-même de mon côté.
Et globalement, le monde du journalisme sportif, en 5 ans, est-ce qu'il a évolué ? Est-ce que tu observes qu'il y a vraiment eu des changements et des améliorations ?
Ben, forcément, on peut parler de ce qui s'est passé du coup. Ouais. En 5 ans, il y a 4 ans maintenant, là, quasiment jour pour jour.
Quasiment jour pour jour.
Ouais. J'ai accepté de parler dans le journal L'Équipe pour dénoncer le fait que j'avais subi une discrimination à mon retour de congé maternité, qu'il y avait beaucoup de sexisme. Il y a des choses qui sont sorties sur le harcèlement. Alors, c'est très complexe parce que c'est pas tout blanc, tout noir. Pour moi, il y avait plus du harcèlement moral que du harcèlement sexiste, mais... Ça s'est mal sorti dans l'article, mais c'était très compliqué pour moi après de parler, de dire en fait, je voulais pas dire ça tout à fait comme ça, c'est pas bien sorti. Déjà, je savais pas que j'aurais un article que pour moi, à la base, j'avais été prévenue que ce serait un truc noyé dans un papier
collégial.
Entier, ce qui était le cas, mais j'ai aussi eu un article à côté, ça je savais pas, donc ça c'était difficile à encaisser parce que du coup, d'un coup, j'ai tout pris dans la tête et moi, j'avais accepté de parler en mon nom, contrairement à mes consoeurs, ce que je comprends, parce qu'elles étaient toujours en poste, pas moi. Donc, j'avais pas de problème, mais je peux dire que ça a été une immense source de stress. Je regrette pas, mais c'était difficile. J'étais enceinte, c'était très dur à absorber la vague de haine que j'ai reçue de la part d'anciens collègues ou voilà, qui n'ont absolument pas été classe. Et j'avoue que moi, je me disais, est-ce qu'ils vont se remettre en question, en fait ? Ils vont se dire, mince, on a déconné, en fait, et pas du tout.
Ah ouais ?
Ça a déclenché leur agressivité, ça a déclenché beaucoup de colère et...
Ils sont sentis attaqués, par
bien
contre.
Sûr,
pas...
ouais, bien sûr. Après, j'entends, hein, sur le fond, c'est très désagréable, mais il y a un moment, il faut se remettre en question. Donc, il y en a, ils ne sont pas capables, il y en a qui sont capables. Tu vois, ça fait 5 ans, 4 ans, je les croise tout le temps à Roland-Garros, ça. Les trois quarts, aujourd'hui, il n'y a pas de problème, on se parle. Mmh. Il y en a, je pense, s'ils pouvaient me crever avec une poupée, là. Alors, je rigole, mais.
Poupée vaudou.
Une poupée vaudou. Je pense, parce que j'incarne tout ce qu'ils détestent, mais. Ça a déclenché beaucoup de choses, que ça a déclenché derrière une enquête interne où il y a 114 personnes qui ont été auditées, il y a des gens qui ont été licenciés, et je veux le dire aujourd'hui, pas par ma faute, ils ont été licenciés parce qu'il y a eu 114 témoignages. Je veux dire, moi, mon témoignage, j'ai dit le cabinet d'audit qui a fait ça, vous le laissez public, en tout cas pour les gens en interne, j'ai rien à cacher en fait de ce que j'ai à raconter, j'ai des preuves, il y a des mails, enfin je veux dire, il y a pas de... Ouais. Vraiment, il n'y a pas de souci là-dessus. Je ne suis pas en train de m'étonner et de vouloir tuer tout le monde. Ce n'était pas du tout mon intention. Mmh. Et comme Marie Portolano l'a fait là, dans son livre, elle voulait dénoncer un système et c'est ce que moi, je voulais faire. Ce n'était pas des personnes nommément, même si ça serait bien que certaines personnes se remettent en question, mais c'était vraiment le système. Alors aujourd'hui, 5 ans après, il y a eu derrière Marie qui, en parallèle des articles qui sont sortis en même temps, avait déjà le projet... de sortir un documentaire qui s'appelle « Je suis journaliste, je ne suis pas une salope », qui est sorti 2 ans après, où j'ai été interviewée, où on est 18, je crois, femmes à avoir témoigné du sexisme systémique. Mmh. On a toutes à peu près les mêmes genres d'histoires. La maternité, c'est rédhibitoire. À chaque fois, il y a un problème derrière. D'ailleurs, j'ai fait le constat, et je vois bien, mes anciennes consoeurs, quasiment aucune, qui sont à la télé, qui sont dans ma posture, quasiment aucune n'ont plusieurs enfants, elles n'en ont qu'un, et si elles en ont plusieurs, ils ont au moins 6 ans d'écart.
Ah ouais,
donc il y a vraiment une pénalité à être mère à l'antenne, parce que tu disparais.
Ouais.
Et quand tu disparais, c'est compliqué après, hein, de reprendre ta place. Et donc vraiment, il y a ce double standard par rapport aux hommes qui... Moi, dans mon service, il y en a plein, ils avaient 4 enfants. Hein.
Bien sûr.
Et très tous les week-ends. Hein. Donc, faut bien que quelqu'un s'en occupe de ses enfants. Donc
merci, la charge mentale sur voilà. Les femmes.
Donc, c'est possible, tu vois, d'avoir autant d'enfants et d'être... Mais bon, moi, c'est un choix que je ne voulais pas faire. De toute façon, j'avais envie d'être présente pour mes enfants. C'est très dur aussi. Pas se mentir, on a un métier incroyable, mais être partie tous les week-ends en déplacement, pas être chez soi, c'est sympa un temps. C'est pour ça que j'ai adoré le faire dans ma vingtaine. Et après, quand tu as une vie de famille... En tout cas, avec des enfants en bas âge, c'est complexe. C'est très, très complexe. Il faut avoir en tête ça. C'est difficile. Il faut faire des choix qui ne sont pas simples. Moi, ce n'est pas ce choix-là que j'ai voulu. Et donc après, tu me posais cette question. Est-ce que le journalisme a évolué ? Oui, le documentaire a eu un énorme impact. Marie a pris cher. Ouais. Et elle le dit dans le livre qui est sorti ce mois-ci, que je trouve formidable. J'ai lu en une journée. Ça m'a amené beaucoup de questions, encore beaucoup de réflexions. Mais tu vois, on est 5 ans après ma démission, un peu plus. Il y a encore des jours où je pense à des réunions qui sont passées où il y a eu des choses qui ont été dites qui étaient atroces envers les femmes et où je me dis, mais pourquoi j'ai pas parlé ? Et je me refais dans ma tête et je me dis, j'aurais dû dire ça. Ou j'ai parlé, mais pas assez, tu vois, par rapport à ce que je pourrais faire aujourd'hui. Mmh. Donc, ça, c'est encore présent. Après, j'ai des échos de ce qui se passe encore dans les rédacs. Bon, c'est pas en 5 ans que t'as changé quelque chose, ni en 2 ans depuis le documentaire. Hein. Et d'ailleurs, il y en a quelques-unes qui sont parties de ces rédacs-là, parce qu'il y a un moment, c'est too much, tu vois. Mmh. Et moi, j'étais très lucide là-dessus. J'allais pas pouvoir changer le système, donc j'allais pas m'épuiser, je préférais partir.
Et t'as pas le sentiment entre ta prise de parole il y a 5 ans, le documentaire de Marie il y a 3 ans, je crois, qui a d'ailleurs été...
Remis sur Canal+, remis sur comme Canal+. Par hasard.
On en parle, le livre sort, comme par magie.
Alors qu'il avait disparu. Il avait disparu 3 semaines après la sortie du documentaire. Ouais, et il est revenu 2 ans après.
Ouais. C'est quand même assez dingue. Et toutes les initiatives aussi derrière qui sont sorties. C'est vrai qu'il y a l'association Femmes Journalistes de Sport aussi qui s'est structurée derrière la publication du documentaire de Marie. T'as pas quand même le sentiment qu'il y a une sorte de soulèvement, ou en tout cas de début de soulèvement ?
Si, si. Et je suis très heureuse parce que il n'y a pas toujours de la sororité dans ce milieu, malheureusement. Et il faut le dire, hein, on n'est pas les plus exemplaires. Et peut-être que sûrement, j'en ai fait partie. Je n'ai pas l'impression, mais c'est possible. Parce qu'il y a tellement peu de place. On nous a fait croire toute notre vie qu'il ne peut y avoir qu'une femme, en fait.
Ouais.
Ce n'est pas le cas des hommes, tu vois. Donc, ça engendre des comportements parfois difficiles. Donc, tant mieux si elles se sont regroupées. Tu vois, moi, il y a 5 ans, au moment où je vis cette discrimination qui est terrible, il y a 6 ans, je contacte quelques concerts dans d'autres médias, dans d'autres chaînes. Est-ce que ça ne vous dirait pas qu'on se réunisse toutes pour parler ? Mais il y a 6 ans, elles m'ont envoyé chier.
Ah ouais ?
Ouais. Elles m'ont dit, ben non, enfin, c'est pas besoin, tout va bien.
D'accord.
Il y avait c'était un déni, en fait.
Ah bah ouais, complètement.
Oui, bien sûr, aujourd'hui, il y a certaines avec qui j'en reparle, elles me disent, ouais, je m'en rendais pas compte, en fait.
Ouais.
Parce que t'es trop dans une normalité. Et en fait, c'est l'accumulation de ce que Marie a très bien fait. Dire, ben moi aussi, tu vois, le fameux MeToo. Ben ouais, moi aussi, ouais, t'as raison, moi aussi. Et là, tu dis, ok, mais il y a un problème, en fait. Mm. Si moi aussi, c'est pas normal. Et quand tu lis son livre, là, qui va encore un peu plus en profondeur dans le système et qui parle de ces fameuses réunions. Oui, il y a des comportements problématiques, des mots problématiques. Tu dis, ben, on a toutes vécu ces expériences-là. Donc aujourd'hui, elles sont structurées, elles aident les jeunes journalistes aussi. Il y a un système de mentorat. Vraiment, il y a des choses qui ont été mises en place et c'est formidable. Enfin, vraiment, je vois l'évolution. Tant mieux. Je pense que la prochaine étape, c'est qu'il y ait plus de patronnes, évidemment. Mais la prochaine étape, c'est que les hommes, ils ouvrent les yeux et se disent, ben, faut pas qu'on rate le train, en fait. Les temps changent, il faut qu'on arrête d'être des connards des fois. Et parfois, c'est des gens formidables qui, juste en groupe, l'effet de groupe, la toxicité masculine dans l'effet de groupe, elle est prouvée, elle est montrée, c'est difficile. Et il faut arriver à dire stop, à se sortir de là, sauf que c'est très dur de se sentir exclu et d'être différent, j'entends. Mais il y a un moment, la révolution, elle est en marche, tu vois, c'est ce qu'on dit. Donc, à eux aussi de s'emparer de ces sujets-là.
Mais en fait, tu le disais très bien tout à l'heure, quand tu as dénoncé ce système-là, justement, aussi dans la presse, et que les mecs se sont retournés contre toi, plutôt que de se dire « Ah, peut-être qu'effectivement, nos comportements ne sont pas appropriés et que je devrais me remettre en question. » En fait, typiquement, tu as répondu à ça.
Ah ben non, mais ils n'y arrivent pas. Et tu vois, je voudrais quand même le dire, quand il y a 4 ans, l'article sort dans l'équipe, le lendemain, la présidente de France Télévisions, Delphine Ernot, m'appelle. Et elle me dit « Je vous crois ». La première chose qu'elle me dit, c'est « je vous crois ». Mais je te jure, parce que je venais de recevoir des messages vraiment difficiles d'anciens collègues. Et encore, je n'ai jamais tout dit de ce qu'ils ont fait. Hein. C'était vraiment... Tu vois, là, pour le coup, harcèlement moral, tout ce que tu veux, il y a eu des trucs absolument pas normaux. Je n'ai jamais porté plainte, jamais été plus loin, mais des comportements qui ne sont pas OK. Bref. Mais elle m'a dit « je suis la patronne, je vous crois, je suis désolée que je n'ai pas su, il y a eu des problèmes RH qui auraient dû être mieux réglés, parce que j'ai dit tout ce qui m'était arrivé, j'ai parlé. Hein. » Mais à l'époque, on n'écoutait pas la parole des femmes, comme on peut l'écouter aujourd'hui quand même. Il y a eu vraiment une étape de fait. Tu vois, il y a 6 ans, donc quand je pars, quand je dis à mes chefs « je pars », le lendemain, c'est dans l'équipe.
Ok.
J'ai même pas le temps encore de négocier, d'annoncer à qui que ce soit. Et le journaliste m'appelle et je raconte ce qui m'arrive, en fait. Mais pour lui, il dit oui, bon, bref, il passe à autre chose. Et 3 ans après, il me recontacte et il me dit, mais pourquoi il n'y a pas eu de MeToo ? Je dis, mais parce que vous écoutez pas, je t'ai déjà raconté mon histoire.
Ouais.
Mais là, il était prêt à écouter.
Okay.
Donc c'est différent, tu vois. Il y a ça. Et donc la présidente, quand elle me dit, je vous crois, je te jure que ça fait du bien. Parce que du coup, on a parlé 1 heure, c'était hyper intéressant. Elle me dit, bon, ok, là, je vais faire un audit. Enfin, tu vois, elle prend tout de suite la mesure des choses, elle comprend, elle m'écoute. Elle me pose plein de questions très précises. Et je lui dis que j'ai des preuves. Enfin, voilà, j'ai des mails, que j'ai parlé, que je ne sors pas ça de nulle part. On est 2 ans après, comme ça, tu vois. Et ça fait beaucoup de bien d'avoir ce type de discours-là à la tête, tu vois. C'était vraiment intéressant.
Pour rebondir sur ce que tu dis aussi, est-ce que tu penses... Tu dis, il y a 5 ans, on n'écoutait pas ce que je disais. Est-ce que tu penses que c'est l'effet de groupe aussi, que la parole se soit libérée plus largement et qu'il y ait eu d'autres prises de parole qui fait que maintenant, on vous écoute ?
Ouais, il y a MeToo surtout. Ouais. Tu vois, 2017, ça change beaucoup, beaucoup de choses. Parce que toute la société aujourd'hui est concernée, tous les milieux, on le voit encore le cinéma. Enfin, je pense qu'on n'a pas fini de détricoter tout ça et de tirer. Mais c'est une manière générale, en fait. On est prêt à écouter. On est prêt à écouter les femmes comme jamais. Et tant mieux, maintenant, il y a une différence et il faut les écouter. Et qu'est-ce qu'on fait derrière ?
Ouais.
Mais déjà, on accueille la parole. On n'est plus à dire « Ah, ça va ». Enfin, bien sûr qu'il y a encore plein de gens qui le pensent. Hein, bien sûr.
Malheureusement. Mais...
de manière générale, en tout cas dans les médias, donc il y a un petit consensus de dire ouais, on peut plus ignorer, on peut plus participer à ça. Donc ça fait beaucoup de bien de se sentir cru, parce que comme Marie, je le redis, on n'était pas là pour dénoncer des hommes.
Bien
on
sûr.
On était là pour dénoncer un système. Moi personnellement, pourquoi j'ai parlé ? Parce que je savais que c'était en train de se reproduire avec d'autres femmes derrière moi.
D'accord.
Je savais que ça se passait mal derrière. Quand j'étais partie, il y avait encore d'autres femmes. Et là, je me suis dit, ben non, en fait, je peux pas. J'avais cette culpabilité, moi, de me dire, j'ai pas parlé, du coup, ben, ça continue. Mmh. Et non, tu vois, il y a eu un article qui est sorti dans Mediapart d'une enquête longue avec plein d'anciens et d'anciennes et qui disait, mais c'est pas possible, 10 ans après, c'est encore la même chose, ça a pas changé, nous, c'était déjà pareil. Mmh. Voilà, il y avait beaucoup de choses quand même. C'est une culture d'entreprise et spécifiquement dans le service des sports. Sauf que ça a été dur à encaisser pour les hommes qui se trouvent dans ce service parce qu'ils ont eu la sensation d'être estampillés comme des gens mauvais, comme. Ouais. Je sais pas comment dire, comme. Comme des monstres quelque part. Mais,
les coupables.
Mais, comme les coupables. Mais c'est ce qu'on dit dans la société, c'est pas les monstres, c'est les gens de tous les jours. Mais sauf que ça demande une remise en question qui est forte. Et de dire, ouais, c'est vrai, j'ai déconné, j'ai pas fait comme j'aurais dû, j'ai des filles, j'ai une femme, j'avoue. Mais c'est pas vrai. Enfin, moi, l'ambiance dans le service, c'était pas ça. Hein. C'était, tu vois, notre grand jeu, je crois que je l'ai jamais dit, mais notre grand jeu, c'était de se dire qui est normal dans le service. C'est-à-dire qui se comporte normalement avec les femmes dans le service. Et on arrivait à tirer sur 60 mecs, 5 personnes, tu vois. Donc, c'est-à-dire normal, hein, c'est... Ça va des trucs de mœurs, hein, c'est-à-dire qui trompe sa femme ou pas, ouais. Qui a une double vie ou pas, qui va voir les prostituées, qui fait faire des trucs qui sont aujourd'hui, franchement, avec du recul, j'ai honte et je me sens coupable d'avoir rien dit, tu vois, avoir trouvé ça anormal, mais je peux même pas en parler tellement c'est chaud ce qui se passait. Donc voilà, tu vois, on était dans ce mood-là. Donc quand t'as 5 mecs qu'on dit normaux sur 60, ça te montre un peu quelle est la valeur de la femme de manière générale, tu vois. Juste comme ça. Bien sûr que tout le monde fait ce qu'il veut, s'il veut tromper sa femme ou pas. C'est pas, les femmes ne sont pas exemptes de ça. Elles trompent aussi leur mari, c'est pas le problème. Mais c'est juste, c'était l'ambiance générale, tu vois. Et en fait, tant que t'es pas dangereuse, ça va. Mmh. Dès que tu viens prendre la lumière, et c'est compliqué, tu vois.
Quand tu dis dangereuse, c'est quand tu commences à prendre du pouvoir, c'est ça. En gros, la lumière, enfin, en tout
oui,
cas.
Oui, la lumière.
C'est, d'écran.
Du temps d'écran. Comme temps. Et tu vois, moi, j'en cherchais pas spécialement, mais il y a un moment, je suis arrivée dans une époque où on féminisait, où il fallait à un moment avoir une caution féminine parce qu'il y a trop de mecs. Et on parle même pas de diversité autre que femme-homme, tu vois. Et j'ai bénéficié de cette discrimination positive, je sais très bien. Sauf que ça m'a collé comme étiquette, puisque dans le service, c'était ouais, mais t'es là parce que t'es une femme. C'est compliqué quand on te remet en question ta compétence en permanence, qu'on te laisse pas faire d'erreur non plus aussi, faut être très honnête.
Ouais.
Parce que tout de suite, c'est à double tranchant quand toi tu fais des erreurs. Du coup, t'es tout le temps, c'est ça que je disais, la posture, tu te sens tout le temps aux aguets, alors qu'aujourd'hui, je le suis plus. Je sais ma valeur, je sais ce que je suis capable de faire, je sais que j'ai l'expérience qu'il faut, donc je suis plus stressée par le fait de qu'est-ce que vont dire mes collègues masculins.
Ouais, c'est ça, la vie des autres n'importe
plus. Du tout. Ben non, vraiment pas, parce que je te dis, ma vie en dehors de ça n'en dépend pas. Parce que j'ai aussi une vie de famille, j'ai 3 enfants, est-ce que j'ai réalisé qu'il y avait des choses beaucoup plus importantes aussi. C'est très difficile notre métier. En tout cas, de gens estellés, c'est qu'on vit des choses exceptionnelles, qui sont hors normes. Mm. Tout le monde nous envie, et c'était bien normal. Sauf que, moi, là-bas, au final, j'étais blasée, j'en avais marre, alors qu'il ne faut pas être blasée dans ce métier, ce n'est pas possible, et c'est aussi pour ça que je suis partie. Aujourd'hui, je ne suis pas blasée. Quand je le fais, je trouve ça génial. Mais je choisis ce que j'ai envie de faire pour ne pas être blasée, justement. Et donc, tu ne peux pas amener ce discours de « c'est dur ». Puisque pour la plupart des gens, ils donneraient tout ce qu'ils peuvent pour avoir ta place.
La même chose, ouais.
Bien sûr, sauf que c'est un travail. On n'est pas au Club Med, tu vois. J'ai fait les Jeux Olympiques de Rio. On se levait tous les jours à 4h du mat. J'ai pas fait la fête, hein, parce qu'on se levait trop tôt. J'ai pas vu grand-chose des épreuves. Mais c'était incroyable d'être sur place et de vivre l'événement, vraiment. Mais je l'ai pas vécu de la même manière que si j'avais été spectatrice, comme j'ai des copines qui l'ont fait. Ils sont venus de Paris, enfin de Bordeaux, pour soutenir une pote à nous au rugby à 7. Deux potes à nous qui étaient dans l'équipe, donc elles ont kiffé de ouf leur expérience à Rio.
Ouais.
Moi j'ai adoré professionnellement, c'est pas la même chose.
C'est clair. Est-ce que tu dirais globalement en fait que l'écosystème du
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
sport est réfractaire au changement ?
Ben oui, parce que c'est un écosystème un peu de privilégié, quand même. Et que changer, ça veut parfois dire renoncer à ses privilèges. Alors c'est différent, tu vois, l'écosystème du journalisme sportif est très privilégié, très particulier. Homme blanc, de manière générale. L'écosystème du sport est différent, c'est beaucoup plus divers. Il y a des sports où tout est mixte. Enfin, moi, je viens de l'athlé, tu vois. Pour moi, il n'y avait pas ce truc de homme-femme. Enfin, on s'entraîne ensemble, on va en stage ensemble, on est en compète ensemble. Certes, les épreuves, ce n'est pas toujours la même chose, mais enfin, je ne sais pas, je n'ai jamais senti cette problématique homme-femme. Au contraire, tu vois, c'était cool d'avoir cette émulation-là. Donc, il y a vraiment une différence aussi avec les sports de co et les sports individuels. Mais donc, pour moi, c'est plus ça, l'écosystème du sport. Il y a deux trucs différents.
Ouais.
C'est que tu as les sportifs qui, pour moi, non, eux, ils ne sont pas vraiment réfractaires au changement. Ils doivent tout le temps performer, ils doivent évoluer, s'adapter, trouver de nouvelles manières de faire, se renseigner. Au contraire, ce sont des gens qui sont ultra bons dans l'adaptation, la remise en question, parce que tu ne peux pas maintenir un haut niveau si tu fais toujours la même chose. On le sait, ça ne marche pas.
Ouais.
Donc, ça veut dire qu'il faut être tout le temps en avance sur les autres. Et je ne parle pas de dopage. Enfin, mais, non, mais c'est vrai, dans ta manière de construire... ton sport, là, maintenant j'ai étudié la psychologie du sport, c'est fascinant, c'est vraiment passionnant. Mais l'écosystème du journalisme sportif n'est pas du tout le même.
Ouais.
C'est un peu gangréné, c'est des gens qui peuvent passer 45 ans, 50 ans dans les mêmes chaînes, le même milieu, faire la même chose, côtoyer les mêmes personnes. Et quand tu sors de cet écosystème, donc moi en plus, quand j'ai quitté France Télévisions, je suis revenue vivre à Bordeaux. On est chez moi là, je suis à côté de Bordeaux. Déjà, tu sors, j'ai mis dans une ville normale, une ville moyenne de France. Qui a rien d'exceptionnel, je suis même pas dans Bordeaux, les beaux quartiers du tout. Déjà, tu sors de ça, tu vis une autre vie, vraiment. Quand tu es à Paris et que tu bosses pour des chaînes de télé, tu vis dans un autre monde, hein.
Ouais.
Tu es dans une bulle, vraiment. Faut le comprendre, ça, mais pour le comprendre, il faut s'en sortir de ce monde-là. Et il y a plein de gens qui en sortent parce qu'ils peuvent plus. C'est difficile hein, d'évoluer. Moi, j'ai encore plein de copines qui sont dedans, donc je sais. Pour moi, tu vois, le changement, il est là. C'est... le monde du sport, des sportifs, est hyper enclin à changer. Le monde de la télé, c'est plus dur.
En fait, ce que tu dis, c'est que l'écosystème justement du journalisme sportif ne ressemble pas à l'écosystème du sport. C'est quand même dramatique, en fait.
Non. Bah non, mais tu le vois bien. Enfin,
on
le sait. C'est en train de changer, hein, je ne dis pas. Ça change vraiment. Il y a de plus en plus de femmes, bien sûr, d'origines différentes aussi. Est-ce que je le redis ? Moi, je suis un stéréotype, un cliché sur pattes. Je suis blanche, blonde, plutôt fine, de corpulence fine. Enfin, tu vois, j'ai tous les attraits pour correspondre à ce que les patrons de chaîne attendent d'une femme à la télé. Ça change. Tant mieux. Faisons de la place à tout le monde. Mais après, quand même, le monde du journalisme en général est quand même un monde de privilégiés. C'est difficile d'entrer dans le monde du journalisme si t'as pas été exposé par tes parents, si t'as pas la culture, les codes. C'est ce qui est dénoncé de toute façon dans les grandes écoles, dans plein de strates de la société. Moi, j'ai fait partie d'une promo dans mon école de journalisme qui est l'IPJ, la promo de la diversité. Moi, je rentrais dans le critère de femme dans un monde d'hommes. Mais dans ma promo, on était 16. Et c'était, franchement, j'ai adoré parce que. C'était que des parcours différents. Il y en a qui bossaient avant, qui faisaient des choses rien à voir. On venait tous de milieux sociaux vraiment différents. Alors que si tu prends une école de journalisme classique, on vient tous des mêmes milieux. Moi, je fais partie des milieux privilégiés. Mon père est journaliste, donc vraiment, j'étais encore dans ce stéréotype-là où j'ai hérité du savoir de mes parents. Et j'ai adoré être confrontée à des gens qui se sont démenés et qui apportent une autre vision du monde. Et c'est ça qui me manque dans les rédacs. Et il y en a de plus en plus, je ne dis pas. Hein, en 5 ans, ça a quand même pas mal évolué aussi parce qu'il y a eu 2020 et George Floyd.
Ouais.
Il y a eu une vraie prise de conscience du manque de diversité, du manque d'opportunités ou en tout cas de racisme latent un peu ou qu'il peut y avoir un peu partout dans les médias. Ou en tout cas, ce vase clos blanc, tu vois, par exemple, aux US, que ce soit le New York Times ou les très grands quotidiens américains, se sont complètement remis en question après 2020. On crée des comités de la diversité, on vraiment fait des efforts très forts pour diversifier leurs plumes. Parce que tu lis pas le monde de la même manière, le monde général, pas le journal, mais si c'est toujours les mêmes profils qui racontent l'histoire.
Ouais.
Et c'est pareil dans le sport,
bien sûr.
Vois. Donc comme tu dis, il y a un truc complètement bizarre dans le sport où le monde du sport est très divers, très très très, que ce soit homme, femme, enfin, vraiment... parce que le sport permet ça, mais le monde du journalisme sportif est ultra élitiste. Et donc, c'est là où ça coince un peu et où on a du mal à rentrer dedans. c'est en train de changer, donc c'est top.
Sous quels aspects c'est en train de changer? Parce que là, on parle beaucoup de la télé, parce que tu vois, tu viens de la télé aussi.
Oui, bien sûr.
On peut parler aussi maintenant du digital, du monde numérique qui s'empare de plus en plus des thématiques de sport. Et j'ai l'impression qu'il aborde justement ces thématiques aussi de façon un peu différente.
Ah, mais complètement. Les réseaux sociaux, aujourd'hui, c'est un vrai média. Je peux te dire que nous, à l'époque, à France Télévisions, c'était regardé comme un truc de merde. Aujourd'hui, ça fait des meilleures audiences que certaines chaînes télé, quand même. Faut être très clair. Quand tu vois une vidéo qui fait 10 millions de vues, va me donner un programme qui fait 10 millions de vues à la télé. C'est pas la même chose, on est d'accord. Mais tu touches un public différent. Tu touches un public beaucoup plus divers, beaucoup plus jeune aussi. Donc pour moi, c'est formidable, les réseaux sociaux. Maintenant, il faut arriver à trouver les codes quand on est journaliste et qu'on veut être sur les réseaux. Tu vois, il y a une journaliste que j'adore qui n'est pas dans le sport, hein, mais qui s'appelle Nesrine Slaoui, qui est autrice et qui a fait Sciences Po et justement qui a écrit un livre qui s'appelle Illégitime pour montrer à quel point, quand on vient de l'immigration, elle est née au Maroc, arriver à montrer que la culture urbaine, c'est aussi bien que la culture, j'en sais rien, du monde de la musique classique, et que chacun apporte sa personnalité. Ben, pour moi, elle, c'est une vraie source d'inspiration parce qu'elle fait du journalisme 2.0 avec des choses très engagées, elle a un militantisme très fort, et elle arrive à faire passer des messages. Maintenant, c'est le modèle économique qui va déterminer aussi beaucoup de choses. Et comment tu te rémunères quand tu es sur les réseaux sociaux, on sait très bien que c'est pas
compliqué.
Ouais, t'es pas payé pour faire des millions de vues. Ouais. Mais ça permet... de mettre en avant, comme tu dis, beaucoup de profils qui ne seraient pas à la télé, qui ne pourraient pas être là. Je ne parle pas de Nesrine, parce que Nesrine, elle est aussi à la télé, mais je dis juste que c'est des exemples qui sont là aujourd'hui, et tant mieux, et qui vont faire beaucoup de bien. Par contre, qui secouent le monde de la télévision et des médias en général.
C'est exactement ce que j'allais te dire.
Ça bouscule.
Fait. Tu vois que ça bouscule, et est-ce que... moi, j'ai la sensation d'un point de vue extérieur, sans travailler à l'intérieur, enfin, quoique je travaille aussi pour.
Un petit peu.
Mais que les chaînes de télévision, les diffuseurs, etc., ont encore énormément de mal à comprendre qu'il y a d'autres choses aussi à explorer et que tout ne repose pas sur la télévision.
Ouais, après, tu vois, par exemple, je connais très très bien le directeur des sports du numérique à France Télévisions, qui, pour le coup, lui, il m'a toujours soutenu et c'est vraiment. Heureusement qu'il était là pendant la période difficile.
Nicolas.
Nicolas Vinoy, oui. Et Nico, je trouve qu'il a réussi à changer à 180 ce que faisait France TV Sport avant, parce que c'était vraiment pas terrible. Sur les réseaux sociaux, aujourd'hui, ils sont leaders. Enfin, aujourd'hui, tu vois, même l'équipe, je trouve que c'est exceptionnel ce qu'ils font sur les réseaux sociaux. Ils ont des formats. Ils sont, d'ailleurs, ils sont très, très regardés et puissants. Donc, il y a quand même des médias qui ont réussi à prendre le lead et à faire ça bien. D'ailleurs, ils ont quand même tous compris un peu, tu vois, la radio est filmée aujourd'hui, enfin, on rebalance des extraits, il y a des chaînes qui le font extrêmement bien. Nous, par exemple, chez M6, ça m'a déçu parce que M6, ils n'ont pas rebalancé un seul truc de ce qu'on a fait dans nos émissions, alors que ça aurait touché un public très jeune qui n'est pas leur public de base, masculin, alors que c'est un public féminin. Ils n'ont pas pris le pli là-dessus.
Ouais.
Tant pis pour eux, j'ai envie de te dire qu'ils n'ont pas réussi, ils auraient pu engranger beaucoup de choses grâce aux réseaux sociaux et ce qu'on a fait, parce que ça aurait cartonné vu les formats qu'on proposait. Ils ont raté le train.
Ouais.
Ça, tu vois, j'ai envie de dire, il y a un moment, les chaînes, elles vont à leur perte elles toutes seules, tu vois. Alors que ceux qui le font bien, franchement, l'équipe, je trouve que c'est un modèle aussi pour ça. Alors, c'est pas une chaîne, ils ont une chaîne aussi, mais au niveau du journal papier, ils ont réussi à prendre un virage qui est fort parce qu'ils sont leaders et ils sont importants et ils sont là.
Ouais. Ouais, complètement. Je partage complètement ton point de vue et je trouve que c'est important. Et tu vois, sans aucun jugement, aucun, mais quand tu vois, par exemple, que là, sur, on va parler des Jeux Olympiques aussi, forcément, on est obligé de parler des Jeux Olympiques et on a le sentiment que les médias aussi... avec les jeux en France, ont dû prendre le pli aussi et s'adapter à des usages numériques, peut-être plus vite qu'ils ne l'auraient fait en temps normal, étant donné qu'il y a les jeux qui arrivent. Mais quand tu vois que, par exemple, France Télévisions voulait initialement, alors ça ne va pas être le cas, mais en tout cas mettre Léa Salamé et Michel Drucker sur le talk show de sport le soir, qui sera le plus regardé sur France Télé. Bon, il n'y a pas de jugement, encore une fois, sur leur qualité de journaliste, mais on a l'impression qu'il y a un énorme décalage et qu'on est en dehors de... On ne veut pas toucher. Enfin, je ne sais pas comment
dire. En fait, oui et non. Parce que quelque part, je comprends leur point de vue stratégique, c'est que qui regarde la télé?
Les personnes d'un certain âge, maintenant.
Voilà. Ouais. Donc, à qui ils vont s'adresser, au final? Tu vois, et je pense qu'ils veulent garder ce public-là qui est là tout le temps et qui fait leur audience. Et eux, ils ont eu cette stratégie de dire, nous, on va rester sur ce public-là qui est vieillissant, mais au moins, ils regardent et au moins, ça garantit des audiences. Parce qu'aller chercher les jeunes à la télé, extrêmement compliqué. Enfin, moi, j'ai 36 ans, je ne me considère plus comme la jeune, mais je ne regarde pas la télé. Enfin, soyons très... À part regarder un match de rugby, à part regarder un très grand événement de sport, je ne vais pas regarder une émission. Je vais regarder tout sur les réseaux sociaux. Mm. Je lis Le Monde, je lis L'Équipe en papier, mais par contre, je m'informe via les réseaux sociaux. Mm. Donc, quelque part, j'entends leur pari. Parce que c'est quoi sinon? C'est mettre les mecs du service des sports? Est-ce qu'ils sont beaucoup plus jeunes? Est-ce qu'ils sont beaucoup plus représentatifs de la diversité? Tu vois ce que je veux dire?
Oui, bien sûr.
Donc Léa Salamé est quelqu'un de reconnu,
de respecté. C'est des figures de la chaîne.
Voilà. Bon, Drucker, ça c'est un autre sujet, mais il incarne une certaine frange du public de France Télévisions.
Ouais, bien sûr.
Donc tu vois, je j'entends complètement les critiques là-dessus, mais est-ce que finalement ils n'ont pas fait un choix stratégique logique? Enfin, sûrement, tu vois.
Mais du coup, quand on suit ton raisonnement, la télévision va à sa perte.
Ben, je sais pas si on se... Telle qu'elle est aujourd'hui.
Ouais. Oui, oui, dans l'état actuel des choses.
Bien sûr, bah, aujourd'hui, face à des plateformes comme Prime Video ou Netflix, ils font comment? Le jour où ils vont vraiment aller ramasser du sport et s'y intéresser, il va falloir qu'ils trouvent des solutions. Parce que, tu vois, nous, chez M6, on a fait leurs meilleures audiences de l'année, avec des 3-4 millions, que ce soit même sur les émissions ou les matchs. Mais ils n'arrivent pas à tenir ces audiences-là en dehors. Mm. Enfin, après, c'est global dans le monde entier. La télé est en déclin. C'est très compliqué si tu n'es pas présent sur les réseaux sociaux, si tu ne le mets pas en replay dans des trucs. Même aujourd'hui, les séries, tout ça, c'est...
Ouais, bien sûr.
Enfin, notre génération, en tout cas, on n'a pas ce réflexe. Je n'allume pas la télé. Je ne sais même pas ce qui s'y passe à la télé.
Après, aussi, tu vois, ce qui est le sport... On est dans l'instantanéité, on est... Moi, par exemple, je regarde jamais, quoique ça peut m'arriver, mais un match en replay, enfin, quand je connais le résultat, je vais pas aller regarder.
Non, ça, t'as raison. Donc... C'est la force des chaînes qui ont des catalogues de sport. C'est pour ça qu'elles se battent et qu'elles mettent beaucoup d'argent, parce qu'elles savent que là, c'est le seul programme que les gens vont aller regarder et vont prendre la peine d'allumer leur télé pour être présents. Et les jeux, ça va être un carton monstre en audience, bien sûr, mais sur le long terme.
Ouais, tu le vois comment cette évolution de la télévision slash du journalisme sportif? C'est deux sujets, mais...
Ben, quand j'ai commencé en 2011, tu vois, déjà, c'est drôle, j'avais 23 ou 24 ans, j'avais Twitter, à l'époque personne n'avait, donc j'avais installé Twitter à tous les journalistes de ma rédac qui ne comprenaient pas ce que c'était, comment ça marchait. Et déjà, je leur disais, mais moi, par exemple, quand je regarde un programme, je suis sur Twitter pour commenter. Ils étaient, ils étaient à la ramasse, tu vois, déjà sur ces trucs-là. Donc, il y a une culture d'entreprise qui n'est pas ouverte de manière générale à ce qui se passe vraiment dans la consommation des gens. Donc, ça a pris du temps. Aujourd'hui, tout va beaucoup plus vite. Déjà. Mmh. Mais en 2011, on était encore sur des modèles d'avant où il y avait une émission phare et le rendez-vous du dimanche, Stade 2, par exemple, ou tout le sport. C'est plus du tout le cas aujourd'hui. Les gens, ils consomment d'une manière tellement différente. Ouais. Donc, il y a eu une sacrée évolution en 10 ans. Ouais, 13, ça fait 14 ans même. 13 ans, comparé aux 13 années d'avant. Tu vois ce que je veux dire? Les 13 dernières années de moi, j'ai commencé par rapport aux 13 années avant que j'arrive. L'évolution a été très lente. Là, avec les réseaux sociaux, avec aussi l'éparpillement de tous les contrats télé. Moi, ça a été très frappant dans les 8 années que j'ai passées à France Télévisions, où le catalogue s'amenuise au fur et à mesure, ça coûte plus cher, et donc il y a des droits télé un peu partout. Et ça, c'est un vrai problème pour le consommateur, parce qu'il ne peut pas payer 50 abonnements non plus.
Bien sûr.
Et parce que ça affaiblit les chaînes de sport, ça affaiblit les rédacs. Et c'est ça qu'on ne voit pas. Et c'est aussi pour ça que je suis partie à un moment, c'est que je voyais que ça n'allait pas dans le bon sens. Pourquoi on est aigri au bout d'un moment? Parce qu'il n'y a plus assez de taf pour tout le monde. C'est-à-dire que ce n'est pas 2 semaines de Jeux Olympiques qui font vivre une rédac. Et moi, j'ai démissionné un peu après les Jeux de Rio. Enfin, j'ai fait ma fille et après, j'ai démissionné. Mais parce qu'il y avait ce truc en rentrant de Rio, pourtant c'était en 2016, hein, c'était exceptionnel. Tu prépares ça toute l'année, c'est le point d'orgue de ta saison. Pouah, la chute derrière, mais comme les sportifs. Hein, les sportifs, il y a vraiment
la décompression.
Ouais, la décompression. Et le truc, c'est que déjà à l'époque, c'était OK, là, on a moins de droits. Tout est remis en question. Alors, France Télé garde quand même un très, très beau catalogue, faut pas se mentir, mais dans plein de chaînes privées, c'est complexe, donc faut trouver d'autres solutions. Mais du coup, ça crée ça, là, ça crée une ambiance tendue au sein des rédacs, parce que tu sais jamais ce qu'il va y avoir après. Est-ce que quand c'était l'abondance à France Télévisions, les mecs, ils étaient
les rois du pétrole,
là, bien sûr, ce qui a engendré des comportements problématiques aussi. Hein, faut pas se mentir, mais t'avais pas cette peur inhérente au droit télé de ça se trouve demain le service il ferme, quoi.
Ouais.
Et ça peut arriver un jour ou l'autre.
Bien sûr.
Donc c'est complexe, tu vois, cette ambiance là mais c'est très lié au droit sportif. Tu vois, c'est vraiment différent. La presse écrite n'a pas ce problème-là. La radio, un peu moins. Vraiment, en télé, le modèle économique aujourd'hui est particulier.
Mmh, c'était déjà un sujet dont tu parlais il y a 5 ans.
Ah ouais.
Ouais, ouais. Donc c'est.
Parce que je te dis, je suis partie parce que je sentais déjà que c'était problématique et ça me saoulait.
Mais c'est terrible parce qu'en fait, le sport, t'as besoin d'images. C'est. Tu peux pas. Je veux dire, le sport sans images, c'est plus du sport.
Non, mais c'est un.
Donc,
vrai
c'est compliqué.
Souci.
Ouais. On a le sentiment, en fait, c'est ça qui est terrible. Et ça, bon, c'est encore d'autres problématiques de ce qu'on abordait tout à l'heure, mais que le milieu du sport n'arrive pas à trouver un modèle presque qui lui convient et qui est vertueux. Entre les chaînes de télévision, les réseaux sociaux qui se développent, mais en même temps, la plupart des réseaux, ils n'ont pas accès aux droits, donc ils ne peuvent pas récupérer les images, donc ils sont obligés de payer. Donc en fait, c'est le serpent qui se mord la queue. Et qu'en fait, il y a un espèce de micmac là-dedans qui n'est pas vraiment viable, quoi.
Ce n'est pas encore clair. Mais en 5 ans aussi, tu vois, par exemple, le rugby s'est beaucoup développé du côté féminin et les audiences ont cartonné.
Ouais.
Les filles, enfin, moi, je me souviens d'un match, tu vois, je ne travaillais plus à France Télé 1. Un France All Blacks dans l'est de la France, je ne sais plus quel stade c'était, qui a fait à Lyon, je pense, qui était plein. Les filles, elles ont gagné contre les All Blacks. Et ça a fait une audience monstrueuse. C'était un samedi après-midi, tu vois, où des fois, elles font des prime time. Donc, il y a aussi ce truc de l'émergence dont on parle du sport au féminin, où quand même, il y a des e-sports leaders où les gens regardent. L'athlète, les gens regardent, que ce soit homme ou femme. La natation, les gens regardent. En fait, il y a vraiment cette dualité du sport co. Donc, comment on amène les gens à regarder le sport co ? Regarde ce qui se passe aux US. C'est un truc de ouf sur le sport, le basket, le soccer. Les meufs, elles font des records dans tous les sens. En Angleterre aussi, sur le foot, les filles, elles ont rempli des stades incroyables. Donc, tu vois, il y a des choses qui se passent et qui sont en train d'évoluer quand même. J'ai l'impression que ça va aider à rééquilibrer ou à changer un peu la donne.
Le sport féminin ?
Ouais, parce que c'était, comme tu as dit, le serpent se mord la queue. Mais c'était exactement ça avant. Ouais, les filles, elles sont nulles. Les gars, vas-y, va t'entraîner, toi, en même temps que t'as 3 tafs à côté, qu'on te libère pas sur tes périodes de tests internationaux. Parce que moi, j'en connais des joueuses internationales françaises qui ont évolué dans des conditions mais catastrophiques.
Ouais.
Et encore, c'était incroyable, elles y arrivaient. La maternité, ça a bougé énormément aujourd'hui au sein du sport. Donc, ça commence à plus être un frein d'être une femme dans le sport. Tu vois, beaucoup de fédés ont un gros problème dans le sport féminin individuel à l'arrivée de l'adolescence et des 17-18 ans chez les filles. Il y a un gros trou. Mais pourquoi ? Parce que les filles, elles arrivent, elles ont 17-18 ans, elles ont le bac, elles se disent « Attends,
le choix ?
J'ai quoi, mon choix ? Mon choix, je vais faire des études et sûrement gagner ma vie, ou je vais aller dans le sport, mais je ne suis pas sûre d'y arriver. » Enfin, je ne suis pas sûre de pouvoir en vivre, même pas d'y arriver, parce qu'il y a une sélection éminemment sportive. Aujourd'hui, non, on n'est plus là-dedans quand même.
Ça évolue.
Dans des grosses fédérations, hein, je ne dis pas, il y a des petits sports, que ce soit homme-femme d'ailleurs, c'est complexe. Mais aujourd'hui, tu veux être rugbyman professionnel, rugbywoman professionnel, ben, tu vas l'être semi, parce que tu n'es pas encore à 100%, mais tu dis que ça va évoluer sûrement, et tu vas avoir des conditions meilleures, je ne dirais pas optimales, meilleures que ce qu'il y a eu. Donc, ça va, tu vois, c'est un effet boule de neige. Là, c'est plus serpent qui se mord la queue, c'est l'inverse.
Ouais, voilà, c'est vertueux.
On est dans un cercle vertueux. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Ben, la qualité sur le terrain est vachement plus sympa. À regarder, c'est pas chiant. Au contraire, d'ailleurs, notamment sur le rugby, c'est vraiment impressionnant.
C'est clair.
Le nombre de mecs qui vont dire « Ah, c'est génial le rugby féminin » parce que ça joue énormément, en fait. Il y a beaucoup moins d'impact physique et du coup, c'est moins chiant, il y a moins de phases au sol. C'est plus agréable, c'est plus entraînant, on va dire. C'est plus fun. Donc, ouais, pour moi, ça, tu vois, c'est une bascule parce que comme le sport se professionnalise dans les sports co, hein, encore une fois, chez les sports individuels, déjà, il y a une différence. Mais en sport co, enfin, on va pouvoir un petit peu entrer dans une ère qui a du sens.
En fait, c'est plus global. Ce que tu es en train de dire, c'est que même le changement de statut des femmes athlètes et des femmes dans le milieu du sport est en train de changer. Et donc, du coup, structure une nouvelle économie presque, en fait, aussi.
Oui, et c'est ce que tu fais avec ton podcast, de mettre en avant des profits différents, de parler de thèmes hyper importants. La maternité, bien sûr, mais le cycle hormonal, nous ne sommes pas des hommes, on n'est pas fait pareil. Et on a tous été entraînés par des hommes à un moment de notre vie qui ne comprennent absolument pas nos contraintes. L'exemple même, c'est l'équipe de soccer américaine qui gagne en 2019 en France, qui te disent, on gagne pourquoi ? Parce qu'on a traqué nos cycles, parce qu'on a une app, on rentre tous les jours nos données, ils ont tous adapté nos entraînements, on le sait toutes, et tous peut-être vous ne savez pas, mais en gros, la semaine avant vos règles, c'est une semaine où il faut être plus tranquille, parce que vous avez un taux d'hormones qui est différent, qui change, qui est plus fatigant, c'est ce qu'on appelle le SPM, le syndrome prémenstruel. Bah, si tu ne prends pas ça en compte avec tes athlètes, si tu ne sais pas comment elles sont réglées, si elles sont sous pilule ou pas, quelle contraception elles ont, est-ce qu'elles ont des règles douloureuses, mais tu ne peux pas y arriver en fait. Et aujourd'hui, ce n'est plus un tabou. Il y a quand même un département entier à l'INSEP qui recherche ça, il y a des gynécologues, il y a vraiment des femmes qui bougent et qui étudient ce sport féminin, le corps féminin qui répond au niveau, aux exigences, à la maternité encore une fois. Mais tu vois, par exemple, moi je le sais, au sein de la Fédération française de rugby, les filles elles te disent bah, on n'a jamais vu une gynéco ou une sage-femme. Non, mais la base en fait, il y a un moment, je veux bien que tous les hommes soient des. Tous les médecins soient des hommes, il faut un tout petit peu réfléchir à ça. Mais ça vient, tu vois, ça vient. Parce qu'on... Et on en parle vachement dans la presse. Ouais. Il y a 5 ans, jamais de la vie tu parlais de ça.
Pas du tout, maintenant c'est un vrai sujet. Un vrai sujet qui est pris à bras le corps et dont on parle. Qui se banalise, mais en tout cas, si d'ailleurs, non, il faudrait que ça se banalise d'ailleurs et que ce soit normal, mais en tout cas.
Qui est devenu un vrai paramètre de performance, bien tu sûr. Vois. Moi, j'ai un pote, un des parrains de ma fille, c'est un pote de mon mari qui est coach sportif et qui à un moment a entraîné une équipe de handball féminine et qui m'a dit, Clem, j'avais fait tout une formation sur le corps de la femme, le féminin et tout ça, et il m'a dit, tu peux me passer tes notes et je lui ai montré, tu vois. Et du coup, il s'est. Vachement basé sur ça. J'avais d'autres. Je lui ai montré les datas de 2019 des filles, ça l'a vachement intéressé. Du coup, il a commencé à traquer le cycle des nanas et il m'a dit mais merci parce qu'en fait, du coup, il y a quoi aussi ? Elles lui font confiance.
Ouais, bien sûr.
Parce qu'elles se sentent comprises, elles se sentent entendues, se sentent prises en compte dans leur particularité qui est d'être une femme. Et ça revient au même que le truc dans le journalisme, on est différent. Et on peut pas se calquer sur les hommes. Et moi, j'en ai eu marre de me calquer sur les hommes. Et je sais pas si tu as vu cette vidéo de Meryl Streep qui est géniale où elle dit. Je crois qu'elle l'a redit dans le journal de 20h de La Housse, mais c'était dans un talk show américain. Elle dit, nous, on a passé notre vie entière à nous adapter aux hommes. Venez les hommes dans notre monde un peu. Faites cet effort de venir voir ce que c'est d'être une femme dans le monde dans lequel on vit. Et j'adore voir les vidéos sur les réseaux sociaux des pères américains qui emmènent leurs petites filles voir le concert de Taylor Swift, qui sont déguisés, qui ont des paillettes partout, qui connaissent les chansons par cœur. Ouais, mais c'est con parce que ça montre quoi ? Ça montre que ces pères-là, qu'on appelle les girl dads, là, ben... Ces pères-là, ils s'investissent dans le monde de leur fille. Ils ne demandent pas à leur fille de venir dans leur... Ou en tout cas, s'ils le font, c'est à double sens, tu vois.
Bien sûr.
Et de dire, bah, montre-moi ce que t'aimes et vas-y, je viens. Et je vais pas te dire que c'est de la merde, que c'est girly, que c'est truc. Tu vois, le monde, il change. Je trouve ça génial pour ça. Parce qu'enfin, les hommes se disent... J'ai une petite source, ça vient surtout des pères avec des petites filles, hein, qui se posent ces questions-là de qu'est-ce que je veux leur montrer et comment je les soutiens, en fait. Et ça, boah, ça, c'est génial. Et ça va avoir une répercussion dans la société entière, tu vois. Et dans le sport.
J'allais dire, et dans le sport. Mmh. Justement, tu penses que c'est vraiment un modèle qui est en train d'aller vers ça, ou en tout cas, on arrête de dire les femmes qui parlent ou les femmes qui ne sont pas contentes ou qui revendiquent des droits qui sont juste fondamentaux sont des emmerdeuses. Mais juste, on essaie de les comprendre et on essaie de se comprendre et de discuter et de communiquer, en fait, pour juste créer quelque chose de meilleur, quoi.
Ouais, non, si ça change. Après, c'est... Quand une fois, je te dis, c'est... En fait, j'ai les mêmes sujets dans mon podcast sur la parentalité. Y a beaucoup de décalage entre ce que les hommes vivent et les femmes vivent. Nos générations, c'est difficile. Et ça demande quoi ? Ça demande aux hommes de renoncer à certains privilèges. Et c'est pas facile. Je vais pas leur jeter la pierre, c'est pas facile de renoncer à des privilèges. Donc ça demande une grosse remise en question, ça demande une introspection, ça demande de vouloir faire mieux, ça demande de se dire « oui, il y a une inégalité ». C'est pas pour ça que je suis la pire personne du monde parce que j'y ai participé. C'est juste, ok, j'y suis pour rien, je suis privilégiée dans ma condition d'homme. Comment je fais en sorte que tout le monde se sente à l'aise dans ce monde et dans cette société et inclure les particularités de chacun et chacune. Après, c'est un travail d'éducation très profond. Ouais. Tu vois, quand l'enquête sur les 114 personnes de France Télévisions est sortie, la conclusion générale, c'était les mecs se croient au PMU du coin et il faudrait un gros travail d'éducation pour leur faire changer leur vision de la femme, en fait, en général, et de l'égalité. Donc, tu vois, là, on part sur des demandes trop fortes, ce que ça demande. Ça demande de l'éducation, mais peut-être parfois il est trop tard, tu vois. Donc, c'est pour ça, les générations futures, et je t'avoue que mon podcast aussi a beaucoup vocation à ça. Vraiment, de déconstruire les stéréotypes, Moi, j'ai passé 10 ans de ma vie avec 95% d'hommes, donc je connais bien les dynamiques et les problématiques. Donc je peux en parler, je peux les expliquer. Et je ne sais pas comment dire que... En fait, tout ce qui se passe dans la société aura une répercussion sur le sport, en gros. Parce que c'est encore un des derniers garçons hyper machistes, quoi.
Complètement. Un des derniers bastions.
Bonjour. Ma petite dernière qui est là.
On a une invitée pour la fin du podcast.
Je peux parler ?
Tout à fait, je suis complètement d'accord avec toi. Mm. Et on parlait rapidement pour conclure aussi, mais c'est les Jeux dans quelques mois. Est-ce que tu penses vraiment que les Jeux à Paris peuvent avoir un impact positif justement sur tout ça, sur tout cet écosystème global du sport?
Oui, forcément. Après, tu vois, les Jeux de manière générale, c'est quand même un événement mixte. Mm. Tu vois, c'est pas la même chose qu'une Coupe du Monde de rugby masculine. Là, les gens vont autant regarder. On ne voit jamais de différence d'audience homme-femme aux Jeux Olympiques. Tu vois, la natation, c'est autant regarder, l'athlétisme. On ne se pose pas cette question,
c'est
ces termes-là, en fait, sur les Jeux Olympiques. Parce que c'est la fête du sport, parce que ça a toujours été comme ça. Il n'y a pas de changement, il n'y a pas de nouveauté. Donc, est-ce que ça va aider à changer quelque chose? Je ne sais pas. Ça dépend aussi beaucoup si est-ce que les médailles seront apportées en majorité par des femmes ou des hommes. Tu vois, là, c'est la loterie. Enfin, c'est pas la loterie, mais il y a un vrai impact par rapport à ça. On le sait très bien. Mais ce qui est génial dans les Jeux Olympiques, c'est que l'exposition est la même. Donc, le retentissement est le même, homme ou femme, tu vois, derrière. Faut juste voir leur manodou. Enfin, tu vois, aujourd'hui, on est 20 ans après.
Elle a
toujours la plus grande championne tête des gens, tu vois.
Elle est toujours numéro 1 dans les sondages. Hein.
Donc, c'est quand même assez hallucinant. 2004, tu vois.
Ça fait peur et en même temps, bon.
Oui, mais parce qu'il n'y a pas eu assez derrière de femmes qui ont gagné. Je ne sais pas si ça va aider, sincèrement. En fait, ce qui est le plus, c'est. Je ne sais pas comment dire. Tu vois, ma grande, elle est à l'école primaire qui est juste derrière chez nous, là. Elle fait l'UCEP le mardi soir, là, ce soir d'ailleurs. Ils font du sport, son maître lui fait du rugby tout le temps. À l'école, ils sont exposés au sport de la même manière. Ce qui pêche, c'est après. En fait. Et on en revient au même truc. Tu manges le micro. On en revient au même truc, c'est plus le monde du journalisme. C'est l'écosystème autour du sport. Ouais. Le sport en lui-même, les filles, elles font du sport, elles sont là, et de plus en plus. C'est qu'est-ce qui est mis en place autour qui aide. Ce qui peut changer pour moi, c'est quand tu gagnes, tu as le spotlight justement, tu as cette mise en lumière qui est très forte. Donc, si tu es une femme, ça va avoir plus. Tu vois, une Clarisse Agbenignou déjà qui fait énormément pour.
C'est clair.
Tu te rends compte qu'elle, avoir pris la parole, elle a impulsé des changements. Aujourd'hui, aux Jeux Olympiques, les femmes qui allaitent ont le droit d'avoir une chambre d'hôtel où leur bébé peut venir. J'ai lu des histoires atroces aux Jeux Olympiques de Tokyo où les femmes qui allaitaient ne pouvaient pas avoir leur bébé avec elles. Bon, on était en plein de Covid et tout, mais il y a un moment, un peu d'humanité, deux secondes quand on sait ce que c'est l'allaitement. Déjà, juste qu'elle arrive à faire ça en étant sportive de haut niveau, je comprends pas, j'ai allaité mes trois filles, c'est un truc de ouf. Mais rien que, tu vois, quand elles parlent, les femmes, maintenant, quand on disait, elles sont écoutées, et il y a des changements. Donc, elle a permis toutes les Jeux Olympiades, aux Jeux Olympiques, il y aura toujours ça de gagner pour les nouvelles mères. Je trouve ça génial. Donc, si ça leur permet d'avoir la lumière mise sur elles et amener des sujets très importants qui sont des sujets sociétaux. C'est top, tu vois.
Ouais, mais il faut. Tu vois, ça recoupe finalement ce qu'on se disait au tout début de l'épisode. Mais il faut aussi c'est des femmes qui font changer les choses.
Ah oui, bah oui.
Voilà, la plupart du temps. Et qui n'ont pas peur de prendre des risques. C'est horrible de dire ça, mais finalement aussi pour modifier plus globalement un écosystème, quoi, on le disait.
Ah, mais c'est sûr. Tu vois, elle a pris un risque, Clarisse, c'est surtout qu'elle a investi.
Ouais.
Elle a perdu de l'argent. Enfin, elle a perdu de l'argent, non. Elle le verra jamais comme ça. Mmh. Mais elle a dû payer tous les voyages de son bébé avec elle, d'avoir quelqu'un, d'avoir son mari ou une nounou. Il y en a plein des sportives à qui c'est arrivé. Il y a une équipe qui est exceptionnelle pour ça, c'est les Black Ferns. Donc, c'est l'équipe de rugby à 7 néo-zélandaise. Elle, ça fait 3 ou 4 ans maintenant, je crois, que quand tu as une nouvelle maman dans le groupe, pendant un an, la fédération de rugby néo-zélandaise leur paye une nounou qui les suit partout, parce que le rugby à 7 est en particulier, elles l'ont dans le monde entier. Elles ont une nounou avec elles, ou si le papa ne peut pas être là, ou le deuxième parent, qui fait qu'elles peuvent prendre leur bébé avec elles partout pendant un an et qu'elles ne sont pas... C'est impossible de devoir se séparer tout le temps de son bébé de cette manière-là quand il est tout petit. Donc tu vois, il y a des prises en compte. Et cet argent, il a été pris de la Fédération des garçons. Ils ont redistribué l'argent.
Oui, tant mieux.
Mais non, mais donc tu vois, c'est possible. Il y a des exemples qui montrent qu'on peut y arriver. On va y arriver un jour. Ça prend du temps de prendre des déclics.
Ouais, bah écoute, restons là-dessus parce que je trouve ça positif. Après, des fois, on en a marre aussi d'entendre ça va changer, ça va évoluer. T'as envie que ça aille aussi plus vite. Et tu vois, finalement. Là, si je reprends l'épisode qu'on a enregistré il y a 5 ans et maintenant, il y a une évolution un petit peu dans ton discours et dans la structuration globale. Mais finalement, c'est quand même un peu poussif, quoi.
C'est vrai, en 5 ans. Ouais, mais il y a quand même eu des choses.
Il y a quand même eu des choses.
Le documentaire qu'a fait Marie, il y a 5 ans, il n'aurait pas eu le même retentissement aujourd'hui.
C'est sûr.
Aujourd'hui, c'est voilà, ça... ça a mis un point d'arrêt à des comportements vraiment problématiques, inadaptés, voire condamnables, qui, je pense, ne pourront plus se reproduire aujourd'hui.
Tout à fait.
C'est terminé. Donc déjà, c'est un immense pas, mine de rien. Le reste de la mentalité, t'as raison, ça prendra du temps et ça va demander de l'éducation. Et je vais pas te mentir, je pense que mon podcast... non, mais c'est vrai, c'est un fond de me dire... Je ne peux pas changer le monde là, comme ça dans une entreprise. Par contre, comment on éduque nos enfants, comment on le voit, les questions de genre, les questions d'inégalité, c'est un thème central de mon podcast. Et bon, bah, aujourd'hui, j'ai des millions d'écoutes. Je me dis que j'ai touché des centaines de milliers de familles qui réfléchissent, qui... Bien sûr, ce n'est jamais assez, mais c'est déjà ça, tu vois.
Bah, tu as mis des choses en place à ton échelle.
Oui, exactement. Exactement. J'ai repris mon pouvoir.
Exactement. Et ça, c'est beau. Et c'est d'ailleurs ce qu'on devrait... tous faire, si on a la possibilité, en tout cas, de le faire à notre échelle. C'est ce que j'essaie de faire aussi avec Championne du Monde.
Bah, t'as raison. T'as bien raison. Et puis, tu vois, il y a une question dont on n'a pas du tout parlé, c'est de l'argent.
Ouais.
Et juste pour terminer, tu vois, quand je suis partie sur France Télévisions, on m'a dit, mais t'es malade, tu pourras jamais gagner autant d'argent, machin. Ouais. Et mon objectif, c'était de pouvoir me rémunérer autant que mon CDI. Alors, je ne gagnais pas du tout 15 000 euros, comme beaucoup de gens peuvent le croire à la télé. Je gagnais 3 000 euros net par mois. Bah, aujourd'hui, je peux le faire. J'ai réussi, tu vois. Donc, c'est possible aussi. Des fois, on se freine en tant que femme à cause de l'argent.
Ouais.
Ce que je te disais, le métier de journaliste, c'est très précaire. Donc, il y a des femmes qui ne peuvent pas clairement l'ouvrir ou sortir du système qui les pénalise. Mais il y a des portes de sortie. Mais aujourd'hui, on peut y arriver quand même. Et il faut encourager ça parce que l'argent reste très tabou. Et
c'est vrai, tout à fait.
De toute façon, les inégalités dans le métier de journaliste sont aussi au niveau salarial. Hein, et sur l'argent, je peux te dire, et encore aujourd'hui, parce que je connais très bien la problématique et c'est le cas sur certaines de mes consoeurs. Donc, ça aussi, il va falloir que ça change. Voilà. J'ai dit beaucoup de choses, désolée.
On ouvre sur une autre thématique. Écoute, on va repartir sur autre chose. Merci beaucoup, Clémentine. Merci encore pour ta confiance il y a 5 ans. Merci pour ta reconfiance 5 années plus tard. Et dernière question, je ne sais pas si à l'époque je posais cette question-là à la fin du podcast. Je ne crois pas, en tout cas sur les premiers épisodes. Mais est-ce que tu peux nous donner ta définition de ce qu'est une championne ?
Non, tu ne posais pas ces questions. Tu demandais si on recommandait quelqu'un.
Voilà.
Ma définition d'une championne. Quelqu'un qui ne lâche pas, qui a de la constance, qui va au bout de l'effort, qui fait vibrer. Si vous entendez du bruit sur le micro, je suis désolée, ma fille est en train de mettre ses doigts partout. C'est le micro, mon cœur. Et qui rayonne.
Très bien. Merci beaucoup, Clémentine. Merci encore.
Merci à toi.
Et merci à toi parce que tu as également été une inspiration pour moi et de changer de voix et de me lancer dans ce qui me plaisait, ce que j'avais envie de faire et de parler des sujets qui me tenaient à cœur. Donc, je te remercie aussi parce que tu as été un modèle et un exemple.
Bah, j'espère dans 5 ans.
Ouais.
Ça voudrait dire que tu continues et que c'est une très bonne nouvelle.
Bah, écoute, j'espère encore plein de belles évolutions avec tous les 5 ans. On se dit « Ah !» C'est bien, ça progresse, ça évolue, il y a des choses positives. Et j'en doute pas, d'ailleurs, j'en doute pas. Merci Clémentine, et puis écoute, allez écouter La Matrescence, qui est un podcast excellent. Vous n'êtes pas obligé d'avoir des enfants, d'ailleurs, pour l'écouter. Hein, non, parce qu'il y a
plein de gens qui n'ont pas d'enfants qui écoutent.
C'est hyper intéressant. Moi, j'ai déjà écouté des épisodes, je n'ai pas d'enfants personnellement, et je trouve ça hyper intéressant, donc n'hésitez pas. Écoute, à bientôt.
À bientôt, merci Clémo.
Salut. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à Championne du Monde sur les plateformes d'écoute et à nous laisser commentaires et étoiles sur Apple Podcasts. Et rejoignez-nous sur Instagram pour plus de news et infos sur le sport au féminin. À bientôt !